R22, tout
R22, antenne,
Radio Brouhaha.
Bonsoir, bienvenue pour ces trois nouveaux épisodes de Radio Brouhaha après ceux de l'année dernière dans le cadre du festival Extra des littératures hors du livre. Donc merci Jean-Max de ta présentation. Effectivement, Radio Brouhaha fait son retour avec des émissions qui sont non seulement en public mais en direct sur la R22, la web radio de l'espace Chiasma. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Radio Brouhaha, c'est un projet qui est mené dans le cadre du master de création littéraire et qui produit des créations sonores, mais aussi des émissions qui sont des émissions plus réflexives sur le statut de la littérature contemporaine et qui associent chercheurs, écrivains, artistes et étudiants. Donc chaque émission se consacre à un enjeu de la littérature contemporaine qui touche notamment la question du hors-livre. Vendredi, au centre de nos débats, se trouvera la question du travail. Jeudi, nous tenterons de comprendre pourquoi on emploie si souvent le mot « terrain » dans la littérature aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a profité d'une actualité éditoriale, j'ai presque envie de dire d'un petit incendie éditorial, hein, d'un livre qui met le feu aux poudres de cette rentrée littéraire, le livre de Johan Ferber, qui s'appelle « Après la littérature, écrire le contemporain ». Et on va le prendre, j'ai voulu le prendre un petit peu au mot, puisqu'il nous dit que la littérature est morte et c'est une chance. Et donc, on a voulu profiter de cette chance de la mort de la littérature pour réfléchir à la littérature. Et évidemment, on ne pouvait pas penser à la mort de la littérature sans penser à sa naissance. C'est pourquoi j'ai souhaité inviter aujourd'hui Alain Viala, qui est à ma gauche, qui est historien de la littérature et qui, en 1986, il y a déjà longtemps, a écrit un livre qui a fait sensation, qui nous a beaucoup influencé, qui s'appelait La naissance de l'écrivain. Et on est content, après Roger Chartier, après Alain Vaillant, après Antoine Pietrobelli, de recevoir un grand historien de la littérature pour amener ses lumières sur le contemporain. Et en parallèle, nous aurons Magali Mastergel, qui est à ma droite, qui, elle, utilise plutôt le concept de néo-littérature. Alors, avant, après la littérature, c'est les questions que nous nous poserons aujourd'hui. Je signale simplement qu'on aura deux plateaux. Un premier plateau avec des invités qui sont autour de moi et un deuxième plateau au bout d'une heure, vers donc 18h, avec la performeuse Tracy Morris, la poète et performeuse états-unienne Tracy Morris qui performe ce soir dans le cadre du festival, et ses deux traducteurs en français, Vincent Broca et Abigail Lang. Mais avant de commencer, Nicolas Attal, qui est diplômé du Master Création Littéraire.
12 France ou sous France? Extra lucide ou extra vagant? Extra ordinaire ou extra terrestre? Avant le vent, après le pré, avant devant, après de près, avant aventure, après précipice, avant before, après after. Hanté par des démons post-apocalyptiques, la connaissance comme est mort, la connaissance comme est mort. Fantôme du passé, zombie du futur, avant déclin, après déclic. On crie, on crée, l'esprit s'inscrit avec l'esprit. Manuscrit, gribouillis, vidéo, graffiti, bruit de fond, brouhaha, vacam, capharnaüm. Extinction de voix, volume au maximum. Sur les murs des cavernes, dans les rues, les tavernes, sur les pages des carnets, les scènes des cabarets, les stylos, les manettes, les micros, les tablettes, les cailloux, les cahiers, les écrits, les écrans.
Les débuts, les rébus, les abus, les oublis, les abysses, les abscisses, idées désordonnées, le chaos, la matrice, l'énergie salvatrice, les gimmicks, les rythmiques, les thèmes mathématiques. Auteur de pointe, auteur de gloire, auteur du crime. Hanté par des démons post-apocalyptiques, la connaissance commémore, la connaissance commémore. Fantôme du passé, zombie du futur, avant déclin, après décrypte. Est-ce la fin d'une ère, la fin d'un cycle, la fin du monde, la fin des temps, l'écriture sans critères, les cratères de la terre, avant nos cultures, après nos futurs, les clichés, les crachats, les cachettes, les cachots, les cuves, les caves, les combles, les catastrophes, les catacombes, les anticorps, les antidotes, les gens qui pensent aux antipodes, les antithèses, les antiphrases, les antiques-antigones, les procédures, les profits, les processus, les profils, les prophètes, les profanes, les problèmes, les programmes, littérature en vin, littérature en vie, littérature en feu, littérature en fin.
Merci Nicolas. Donc on va en venir au cœur du sujet avec Johan, puisque c'est la publication du livre de Johan, après la littérature, qui a donné l'idée à cette émission. Je voudrais qu'on aborde un phénomène qui est peut-être parallèle au livre, qui n'est pas le cœur du livre, puisque tu ne traites pas exactement des formes hors livre, des écritures hors livre, mais ton geste, lui, attaque peut-être ce qu'on pourrait appeler une scène littéraire ou un monde littéraire, et notamment tu entre directement dans la problématisation de cette question de la mort de la littérature qui a fait florès depuis une quinzaine d'années. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de cette volonté qui a été la tienne, plutôt de t'attaquer à une scène littéraire, à un espace critique qui te semble, disons, conservateur et rater les enjeux du contemporain ?
Oui, ben déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invité à cette émission. Et donc, alors, je vais faire une réponse qui ne sera pas une réponse extrêmement développée, parce que les enjeux qui tournent autour de cette question de la mort de la littérature sont des enjeux multiples. Mais c'est effectivement la manière dont tu en parles là, c'est-à-dire, finalement, est-ce que la mort de la littérature a eu lieu ? Alors, moi, je suis parti dans l'essai de cet article, de cette tribune de Donald Morrison dans l'édition européenne de Time, qui parlait de la mort de la culture française, et tout le monde s'était précipité, notamment vous aviez des écrivains comme Marc Weitzman, pour dire non, la littérature n'est pas morte, la littérature française se porte très très bien. Et moi, mon hypothèse de départ a été plutôt de prendre cette mort de la littérature au sérieux et de dire que finalement, oui, la mort de la littérature avait eu lieu, parce que en fait, je pense qu'il faut distinguer plusieurs morts, dont ce que j'appelle une mort, je dirais, discursive de la littérature et une mort poétique de la littérature. Alors, dans la mort discursive de la littérature que tu évoquais là, en fait, c'est le début de l'ouvrage, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de personnalités dans le champ médiatique français qui font qu'on ne peut pas lire aujourd'hui de la littérature contemporaine. Alors, je pense notamment à Antoine Compagnon au Collège de France, qui a installé tout un système, il me semble, universitaire qui empêche effectivement la venue du contemporain, à la fois dans sa lecture du contemporain, mais aussi à l'université, avec un certain nombre de chercheurs qui en freinent la recherche. Ça, c'est le premier état, c'est ce que j'appelle l'incontemporain. Alors, je parle d'Antoine Compagnon parce qu'il est encore presque vivant, mais dans le livre, je parle, en fait, plutôt, c'est plutôt des noms génériques, en fait. C'est-à-dire, c'est plutôt une attitude générale, un peu comme dans les caractères de la Bruyère. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire, c'est des types sociaux. Et dans ces types sociaux, on pouvait trouver, mais paix à son âme, Tsvetan Todorov aussi, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur le bien fondé de la littérature, mais à partir, je dirais, de positions énonciatives qui castrent les autres. C'est-à-dire, l'un est au Collège de France, l'autre, Todorov, a été le héros de la modernité, et puis après, il était repenti. Donc ça, c'est la première scène qui me semble être une scène politique majeure. C'est-à-dire que quand on se retrouve devant sa page à vouloir écrire, quand on a le désir d'écrire au début des années 2000, eh bien, c'est Quintane, je crois, qui le disait dans les années 10, mais elle le dit, comment ça se fait que moi, j'en suis à écrire le nom de quelqu'un d'inintéressant comme Zemmour dans mon livre.
Ou Compagnon, qu'elle cite.
Ou Compagnon, effectivement, qui sont, comme on peut le dire, des nains pour l'époque. C'est pas des gens très intéressants. Et à partir de là, comment ces gens qui n'ont pas d'importance intellectuelle peuvent quand même projeter une ombre une ombre théorique, une ombre sur ceux qui veulent écrire et sur ceux qui veulent penser le contemporain. Alors ça a une double conséquence, c'est-à-dire que cette première mort discursive entraîne ce que j'appelle dans le livre une mort poétique, et qui est double. Il y a tout d'abord ce que j'appelle les mécontemporains, c'est-à-dire ceux qui pensent que la littérature est toujours vivante et qui écrivent comme si de rien n'était. D'un côté, il y a deux catégories. D'un côté, il y a les modernes attardés, que j'appelle les modernistes, et qui récupèrent une sorte de, je dirais, de parlure, d'idiolecte un petit peu blanchotien sur la mort, sur l'absence, sur l'image est là, elle n'est pas là, attention, coucou, elle disparaît, mais je vais quand même écrire dessus. Ça, on en arrive presque finalement, mais à une parodie. À une parodie de modernité que certains, et là il y a un facteur social, politique et psychologique qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire que certains le font de manière non malveillante, et je dirais qu'il y a aussi une autre catégorie qui utilise la modernité comme un narcissisme social, c'est-à-dire il est bien évident que dans une conversation, une discussion, et notamment sur les échanges qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, chacun peut se revendiquer moderne parce que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a ce facteur de narcissisme qui, moi, me semble au cœur de la modernité, alors qu'on voit bien que le narcissisme, c'est une valeur que rejette la modernité. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est...
Donc là, ce sont les institutions, et si je parlais un petit peu comme Alain Viala, et comme Alain Viala nous a appris à le faire, ce sont les institutions du champ littéraire qui recouvrent de sa parlure la production littéraire.
Exactement. Et ensuite, on a ce qu'on peut appeler les primitivistes, c'est-à-dire ceux qui croient une restauration du récit, une sorte de roman roi, mais qui va passer par des biais différents. C'est-à-dire que, par exemple, le roman peut revenir à la condition de le subordonner à d'autres outils. Par exemple, les sciences sociales. Je prends l'exemple de Ivan Jablonka. Par exemple, on va faire un roman sans faire un roman en prenant justement une interrogation de type de sciences sociales. Ça, c'est le premier point. Vous avez aussi ce que j'appelle les atlantistes, c'est-à-dire les admirateurs du roman américain, ou les admirateurs du roman américain qui écrivent justement à partir d'aujourd'hui des romans qui s'inspirent parce qu'ils restaurent l'histoire, ils restaurent la continuité narrative avec une image qui est complètement caricaturale du roman américain, parce que le roman américain, quand on le lit, il n'est pas du tout comme ce que les atlantistes voudraient nous faire croire. Alors on en a des exemples très clairs. Par exemple, vous avez Elena de Jérémy Fell qui sort là chez Rivage, dont je parle d'ailleurs dans le livre, et qui pour moi est le prototype du roman atlantiste. Le roman atlantiste, ça me fait penser aux fans de Johnny qui allaient le voir à Las Vegas et qui ont une image complètement prototypique et complètement surannée de l'Amérique qui n'existe pas. À côté de ça...
D'autant qu'on pourrait dire, pardon de t'interrompre,
oui,
que le roman américain, c'est le roman américain tel qu'il est traduit et tel que, là encore, des mécanismes de tri et de sélection nous l'ont apporté en France.
Exactement, c'est-à-dire c'est plutôt un roman américain vu à travers le prisme des séries télévisées d'ailleurs, et des séries télévisées dont on nie d'ailleurs la complexité narrative et les enjeux politiques, parce que ce qui donne après dans les romans une syntaxe comme chez Jérémy Fell c'est en fait une sorte de latinisme mais néolibéral. Ça c'est le premier point. Et on s'aperçoit que ces gens-là arrivent quand même à faire écran dans le champ à différents degrés. Mais le cœur de mon propos, d'après la littérature, sont les écrivains qui ont compris que la littérature était morte. C'est-à-dire qu'ils ne font pas semblant de continuer la littérature comme si de rien n'était, mais qui voient que la littérature est morte. Et pourquoi elle est morte ? Parce que quand ils se mettent à vouloir écrire, il y a comme une espèce de fiction qui se met en place, que j'appelle moi la page noire, et qui fait que quand on se retrouve devant sa feuille, en fait, tout le monde a déjà tout écrit. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas, quand on veut écrire de nos jours, devant une page blanche, on se retrouve devant une page noire, on est comme finalement devant une littérature qui est confisquée. C'est-à-dire que la littérature...
Mais ça, c'était quand même aussi, Johan, le cas de La chair est triste, et là, si j'ai lu tous les livres.
Exactement.
Il y a une histoire longue de la mort de la littérature.
Voilà, il y a une histoire qui est très
longue. Et de la page noire aussi. Est-ce que la page noire d'aujourd'hui est différente de la page noire d'hier ?
Non, elle n'est pas différente, mais les modalités pour en sortir, oui. C'est-à-dire que, au cœur de l'essai, j'essaie de retracer quelques occurrences de la page noire. C'est-à-dire que l'essai ne parle pas que du contemporain, mais comment, à différentes périodes, la page noire a pu se poser pour ceux qui arrivaient. Alors, on voit bien que quand même ce que je dis procède d'une vision un petit peu la Coulabart du romantisme, hein, de l'absolu littéraire. Mais moi, la première grande crise que je vois, en tout cas que j'identifie, mais qui sont des crêtes, hein, dans l'histoire de la littérature, parce qu'on pourrait trouver d'autres exemples, mais moi je me sers de Proust ou Faulkner, parce que Proust, par exemple, dans les années 1890, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écrire. C'est quelqu'un qui écrit Les plaisirs et les jours en 1896, et puis qui ensuite se retrouve dans une crise telle qu'il n'arrive pas du tout à écrire. Et lui, il va trouver le premier, en tout cas, comme moi je le formule, le premier, il s'aperçoit qu'il y a une page noire, et ça va être le premier à essayer de sortir de la page noire en écrivant La Recherche, qui est un livre à la fois qui existe et qui n'existe pas. Quand on lit Le Temps retrouvé, le livre vient d'être accompli, le livre vient d'être accompli, et en même temps, le livre n'est pas accompli. Donc il trouve cet instant unique dans l'histoire de la littérature, qui est complètement castrateur pour ceux qui arrivent ensuite, d'un livre qui existe tout en n'existant pas, puisqu'au moment où on dit qu'on va le faire, on doit recommencer à le lire pour retourner dans cette boucle. De la même manière, chez Faulkner, c'est exactement la même chose, c'est quelqu'un qui écrit en dehors de toutes les bibliothèques comme s'il n'y avait pas de livre. Et à partir de là, on peut tirer une définition de la littérature, qui est une définition extrêmement difficile, délicate et paradoxale pour celui qui s'y affronte, c'est-à-dire la littérature, c'est l'écriture, mais moins l'écriture. C'est-à-dire, c'est une écriture qui doit...
Qu'est-ce que tu veux dire exactement
par là ? C'est-à-dire que, par exemple, dans La Recherche, c'est-à-dire une écriture qui, quand même, quand on ouvre du côté de chez soi, il y a bien quelqu'un qui écrit, il y a bien quelqu'un qui parle, il y a bien une écriture qui apparaît. Et cependant, quand on arrive au temps retrouvé, on nous dit que le livre n'est pas écrit. Donc, on est dans un espèce de moment de déréalisation assez vertigineux. On a tous éprouvé ça en lisant La Recherche. Et de ce vertige-là, finalement, eh bien, il faut que, comme le disait Genette à propos de Rob Grier, d'ailleurs, il faut arriver à une sorte de vertige fixé. Et ce vertige fixé, c'est celui sur lequel, eh bien, cette ligne étroite va fonctionner le contemporain. Et donc, nous, on a deux grandes idoles tutélaires dans notre contemporain. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont celles qui, en tout cas, peuvent avoir une incidence sur les auteurs que j'examine. Et que je fais une bascule entre les années plutôt générationnelles, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, avec des gens comme Tanguy Vielle, Nathalie Quintane, Célia Houdard, Laurent Mauvignier, Joris Lacoste, et David Bosc, par exemple, ou Antoine Wauters plus récemment, ou Simon Johannin. Et eux, en fait, ils ont deux grandes figures tutélaires qui sont Michon et Schnoz, qui eux-mêmes ont dû résoudre, avant d'écrire, le problème de la page noire que leur avait posé précédemment Beckett et Camus, par exemple. Ça peut être aussi Duras, voilà. Mais à partir de là, chacun doit résoudre, chacun doit faire, comme dirait Rob Grier, hein, chacun doit suivre son impasse jusqu'au bout. Voilà. Et donc chacun va, à partir de là, tenter de suivre son impasse jusqu'au bout et proposer finalement des modalités particulières pour sortir de la page noire. Et ces modalités particulières pour sortir de la page noire, cette fois, c'est finalement des modalités qui vont essayer de sursoir à cette idée de mort qui s'est quand même emparée de la littérature sur le fait de Blanchot. Et c'est pas du tout, il s'agit pas à chaque fois de condamner et Blanchot et Michon et Duras, c'est pas du tout mon propos, mais essayer de trouver quelque chose d'autre, c'est-à-dire de l'ordre de surmonter finalement cette mort, accepter la mort de la littérature pour proposer ce que Stéphane Bouquet, un des poètes majeurs de notre contemporain que j'étudie dans le livre que j'analyse, propose d'appeler la revie. Voilà.
Et est-ce que je peux quand même te poser une question un peu bête ?
Mais vas-y.
Dans cette idée de mort de la littérature, il y a tout de même un truc qui m'échappe un petit peu en lisant le livre, c'est qu'est-ce que tu entends exactement par littérature ?
Ce que j'entends par littérature, c'est en fait deux choses.
C'est bête, mais un peu massif.
Non, c'est pas bête parce que... Enfin, je sais pas si c'est bête, mais je me suis posé exactement la même question en écrivant. Ouais. Donc on doit être tous les deux bêtes. Alors non, en fait, la question, c'est de savoir... La littérature, c'est finalement... C'est deux choses. C'est d'abord toujours une idée qui précède. C'est-à-dire finalement un passé mémoriel totalement écrasant et mythologisé pour celui qui écrit. Ça m'apparaît important, celui qui écrit a quand même une idée un petit peu mythologisée et presque déifiée de la littérature qui le paralyse. Et ensuite, la littérature, c'est finalement quelque chose qui essaie de proposer une écriture tout en cherchant justement à sortir de l'écriture et de la littérature, d'échapper à la littérature. C'est cette espèce de double mouvement, à la fois paradoxal et contradictoire, qui propose la dynamique de l'écriture, d'où finalement une littérature contemporaine qui cherche finalement à trouver des choses qui sont tout à fait antinomiques à ce qu'on a pu connaître auparavant. Par exemple, la littérature contemporaine, par exemple, prenons le roman Vigné, la littérature contemporaine avec lui cherche à faire une chose, c'est communiquer. L'idée de Mauvigné, c'est que c'est un renversement total du paradigme qu'on peut connaître, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, personne ne communique. C'est par exemple la fonction poétique que Jacobson avait identifiée et qui était le côté palpable des signes, c'est quelque chose qu'on partage tous les jours. Il y a des sommes d'incompréhension. La littérature, c'est plutôt la clairière, le moment où on va enfin pouvoir communiquer pour trouver, comme on peut dire avec Quintane, une littérature directe, une littérature non pas de l'effet de réel, mais qui aura un effet dans le réel. Voilà. C'est à peu près. Alors, je conviens que c'est un nœud paradoxal, mais ce paradoxe n'a pas valeur d'apori, il a valeur de dynamique narrative, même si ça relève de la poésie. D'ailleurs, la poésie que j'étudie est une poésie extrêmement narrative. Voilà, que ce soit Quintane ou Stéphane Bouquet, ou même Joris Lacoste, donc qui est du côté du théâtre, mais qu'on peut qualifier quand même son théâtre d'intensité poétique. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez narratif. Mais voilà.
Alors peut-être on reviendra sur cette question en ouvrant le dialogue à Magali, mais peut-être j'ai souhaité qu'il y ait Alain, parce que d'une certaine manière, son travail est tout à l'opposé du tien. Il a étudié la naissance et pas la mort, et il l'a étudié de manière sociologique, en s'intéressant surtout aux institutions. Et donc j'aurais aimé peut-être, Alain, que tu t'exprimes sur ce que tu appelles la naissance de l'écrivain, et est-ce que c'est pas la naissance de cette idée de littérature, qui est une nouvelle littérature que tu fais remonter à la fin du XVIIe, ou en tout cas au XVIIe siècle. Et pour toi, c'est avant tout un champ qui est en train de se constituer et fait d'institutions tramées et qui va inventer une nouvelle idée. Et peut-être, question subsidiaire, qu'est-ce qu'il y avait avant et qui n'était pas cette littérature ?
Que des questions. Merci d'abord. Merci à toi, Lionel. Merci à Radio Broa. À quoi je vais contribuer avec ma voix cassée,
ouais,
si le micro,
peut-être,
va bien se déplacer un peu. Et puis on va dire merci à Johan pour sa magnifique description de l'état du champ institutionnel du littéraire et pour la magnifique évocation de mon ami Pierre Michon, dont je viens de comprendre qu'il était passé. Comme on est contemporain, j'appartiens au passé, je vais être la voix du passé. D'accord ? Cela posé, tu nous as parlé, Johan, à la fois de pratique et de mythe. La mort de la littérature, c'est un mythe. La littérature en tant que telle, c'est un mythe. Mais tu as commencé ton livre avec une citation d'un critique américain. Je voudrais rappeler un autre critique américain, ou plutôt une autre critique américaine, qui était Priscilla Parker Ferguson, qui définit... Faut le monter encore ? Oh là ! Qui définit la France comme une nation littéraire. La littérature, c'est entre autres choses... un mythe national. Quand la France est constituée comme une nation, elle a en même temps, on pourrait entrer dans le détail, mais peu importe, construit la figure sociale de l'écrivain comme quelqu'un d'important dans la vie sociale, et elle l'a instituée, c'est-à-dire une pratique, une institution, c'est une pratique collectivement reconnue comme ayant une valeur, et à laquelle on affecte des structures, des organismes. Par exemple, on a inventé l'Académie française. Par exemple, on a inventé la propriété littéraire. Donc, on a construit quelque chose qui a été canonisé et qui a adopté une des significations possibles du nom de littérature. Voilà, ça, c'est un phénomène social et historique où il y a des institutions, des pratiques, mais le carburant des pratiques et des institutions... c'est la mythification, parce que ça ne marche. Les institutions ne sont efficaces, les pratiques n'intéressent les gens qu'à proportion de la croyance. Et donc on fabrique de la croyance. Tout ce dont nous parlons, c'est des usines à idées, à émotions. les émotions qui font qu'on croit aux idées, ou les idées qui font qu'on légitime les émotions, donc on carbure à la croyance. Je suis désolé, Johan, tu ne nous as pas suffisamment expliqué si ce qui est après, c'est la littérature ou une certaine croyance à une certaine forme de littérature. Et dans les exemples de contemporains que tu donnes, je trouve qu'on retrouve énormément de choses que l'on a vues à plusieurs reprises au fil du temps. La page noire, tout est dit depuis 3000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Ça me ramène à mon 17e. Je veux dire, ça fait partie, ça aussi.
Au 17e, on le dit aussi.
Ah oui, on commence par là même.
Oui, on commence, par, on commence hein? toujours par
Après,
là.
Après, toute la question, c'est oui, je vais dire la même chose, mais je le dirai de façon, la façon de le dire est nouvelle. Tu as cité La Bruyère, je cite La Bruyère de la même façon. C'est un petit jeu de référence comme ça. Donc, l'interrogation, à mon avis, elle n'est pas là. Pour moi, l'interrogation sur après la littérature, c'est comment on se débrouille en France en ce moment avec cette institution que nous appelons à la française la littérature. Il se trouve que je suis à la fois à l'école des hautes études à la Sorbonne et en titre aussi à Oxford. Donc je prends un peu l'habitude de regarder la France avec un œil un peu à distance. La France est le seul pays, sauf quelques colonies qui l'ont, anciennes colonies qui l'ont imité, où il y a un canon national, où il y a une canonisation de la littérature comme moyen de forger le grand récit national. Posons-nous ces questions-là. Est-ce qu'on est sorti de ça? Est-ce que c'est de ça que nous parlons? Ou est-ce qu'on n'en est pas sorti? Peut-être qu'on n'en est pas sorti. Ou est-ce qu'il est en train de se développer d'autres choses à côté et en dehors de ce canon et des pratiques et des supports qui l'engagent? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de littérature de toutes les formes. Il y a 1500 romans pour la rentrée littéraire. Je suis occupé cet été du Festival d'Avignon. 1483 spectacles. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme production ultra-massive?
Alors là, peut-être, Alain, ça pourrait être intéressant de voir avec Magali, parce qu'en dehors des romans et en dehors des spectacles, ce sur quoi travaille Magali, c'est vraiment un autre lieu des pratiques littéraires qui, justement, sont pas contre-canoniques, parce que je pense qu'il y a un travail du contre-canon chez Johan, mais qui sont plus périphériques et plus dans les marges de notre lieu d'observation. Donc ça, tu l'as baptisé néolittérature.
Oui, alors je vais faire un petit récap.
Puisqu'on est dans la croyance, c'est le baptême.
De l'an dernier, puisque j'en ai un peu parlé l'an dernier déjà. Et puis dans la foulée, on était allés avec Elisa Bricot et Nancy Murzilli à un colloque qui s'appelait Extension du domaine de la littérature, où on avait parlé justement de la question du canon et du contre-canon. Est-ce que quand on énonce une théorie littéraire, est-ce que quand on désigne la littérature, tout simplement au moment où on désigne le mot littérature, est-ce qu'on n'essaye pas d'établir tout simplement un contre-canon qui va remplacer le canon? Donc il faut aussi avoir conscience que chaque fois qu'on énonce quelque chose, on se positionne contre, mais aussi, c'est la lutte des classes qui se renouvelle toujours, pour prendre la place d'eux. Donc on est aussi dans une tension à celui qui va dominer, qui va être le paradigme dominant. Alors la néolittérature, moi, je l'ai désigné comme ça parce qu'à un moment donné, je ne savais plus appeler les objets sur lesquels je travaillais puisqu'ils n'étaient pas dans des livres. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on n'évolue pas vraiment dans les mêmes sphères. Pour moi, tout est potentiellement littérature. Dernièrement, j'ai un exemple, j'ai travaillé sur une artiste du web, Molly Soda, qui a fait une performance très célèbre parmi les gens qui sont sur Tumblr, donc les gens de moins de 35 ans plutôt. Elle a lu sa boîte mail, sa performance s'appelle Inbox Full. Et donc, elle l'a lu pendant 8 heures, sa performance. Alors, il y a évidemment un côté très conceptuel derrière ce travail, comme à Andy Warhol. C'est des formes d'écriture procédurale qui passent par le web. On ne peut pas dire que son texte soit un texte non littéraire. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a une narration, il y a quelque chose, il y a un dialogue. Et ces formes littéraires, elles sont évidemment pas dans le livre, elles sont pas non plus, elles relèvent pas du même discours critique. Donc elles sont vraiment très très loin finalement du Gotha littéraire tel qu'on l'expérimente en France, à Paris, dans le 6e arrondissement. et dans des limites finalement géographiquement très très circonscrites avec des acteurs très, très restreints. Quoi. C'est quand même toujours un peu les mêmes personnes. Donc la néolittérature, l'idée c'était de donner un nom à ces formes transmédiatiques de littérature et puis aussi d'en profiter pour donner de nouveaux critères d'évaluation de ce que pouvait être la littérature en l'ouvrant. Notamment, alors néo, c'est une blague hein, quand même, il faut être... toute la vague des néos d'après-guerre,
c'est... Toi, c'est le néo de Matrix.
Alors, c'est tous les néos, parce que le néo, évidemment, le néo, c'est toujours le retour du même. Le néolibéralisme, le néofascisme, c'est toujours du fascisme, mais il revient sous un autre visage. Mais la base est toujours la même. On peut avoir de la littérature sur Internet, ce sera toujours de la littérature. Elle est juste sur Internet. Elle prend une autre forme. Ce qui est important, c'est la plasticité, en fait. Le pouvoir de la littérature, c'est, comme le cerveau humain, sa plasticité. Et là, je vous renvoie aux travaux de Catherine Malabou sur la plasticité à la fois neuronale et plastique de l'art, qu'on peut parfaitement appliquer à la littérature. Donc à la fois, c'est une histoire culturelle, cette vague des néos d'après-guerre, on se reconstruit, on est dans le néo, ben oui, on a besoin de se donner de la nouveauté pour se relancer. C'est évidemment aussi de la culture populaire, le néo de Matrix, cet être prophétique, métaleptique, qui sait aller dans la réalité et la fiction. Il a le pouvoir de traverser les cadres fictionnels. C'est aussi un abonnement Bouygues de 2006, le premier abonnement illimité par téléphone. On pouvait parler sans interruption gratuitement. C'est un peu important parce que c'est vrai que Barthes disait « Nous ne disons qu'une seule phrase qui commence le jour de notre naissance et qui finit le jour de notre mort ». Donc on peut aussi étendre comme ça, comme un élastique, ce qu'on considère comme étant de la littérature, nos discussions téléphoniques. Kenneth Goldsmith, poète conceptuel qui a publié Uncreative Writing en 2012 et qui a été publié là en français par François Bon sous le titre L'écriture sans écriture, parle de cette littérature qui est une littérature de l'appropriation, du cut-up, du ready-made, donc de la littérature qui n'est plus écrite mais qui est vraiment constituée de morceaux préexistants. Alors néolittérature, c'est pas un mot non plus que j'ai inventé parce que ça existait déjà. Ça a été la première mention, c'est la Revue des Deux Mondes que j'ai trouvée en 1839. C'était plutôt péjoratif, donc c'était déjà quelque chose de négatif. Et puis surtout, dans les années 2000, c'est le terme qu'on a utilisé pour désigner le passage de la littérature kabyle à un système oral vers un système écrit. Donc déjà, la néolittérature est utilisée dans un contexte de colonisation, où on demande à une littérature orale de passer dans un autre support, d'être remédiatisée, et donc d'être remédiatisée dans l'écrit. Ça, c'est utiliser le terme néolittérature, c'est parler d'une autre littérature, des littératures auxquelles on n'a pas fait attention peut-être, celles qui procèdent aussi des expérimentations d'avant-garde de Bernard Hetzig, des poètes objectivistes de Charles Resnikoff. C'est des histoires parallèles, en fait, mais qui, aujourd'hui, dans le monde contemporain, ultra-numérique, aussi, où l'écriture visuelle accompagne vraiment notre quotidien, me semble tracer une autre histoire de la littérature, une histoire qu'on n'a pas canonisée, mais qui s'auto-canonise, en fait, par les pratiques de masse, et qui devient aussi légitime en étant ici, dans un festival, présente dans, voilà, par un nouveau prix littéraire. Et puis tout simplement, on le voit avec la programmation Littératube, en utilisant de nouveaux moyens de publication qui ne passent plus par la canonisation du livre. En fait, du coup, on passe d'un système vraiment d'un médium livresque vers un médium beaucoup plus libre, alors qui a une autre économie, qui va reposer sur d'autres systèmes de reconnaissance, parfois des algorithmes, liés justement à ce qu'on appelle la bulle de filtre. On retombe toujours un peu sur les mêmes choses, mais quand même, on a comme ça des échappées du livre et aussi des échappées critiques qui vont passer aussi par des grands phénomènes d'appropriation qui, moi, m'intéressent beaucoup, comme par exemple la fanfiction sur Internet, où il y a beaucoup de gens qui écrivent aussi, et c'est leur manière de faire de la critique littéraire. C'est aussi leur manière de canoniser des textes, de se les approprier, de les faire leur, et puis ensuite même de les publier, de les continuer. Et dernier point, évidemment, c'est la question de la nation. Alors ça, c'est très important. La littérature française, elle est normative parce que c'est une langue littéraire nationale, qui est d'ailleurs utilisée à l'école pour apprendre le français. Et c'est un problème aussi presque constitutionnel de la littérature française, c'est de distinguer français et francophone, ce qui me paraît aujourd'hui complètement incompréhensible. pourquoi est-ce que des écrivains francophones sont distincts de la littérature française ? Et parfois même, j'ai lu récemment des livres, je ne vais pas le citer ici, je lui ferai un sort une autre fois, on distingue...
Je ne veux pas comme Johan, tu cites pas...
Il faut citer.
C'est un contexte un peu particulier. On va pas considérer un auteur français parce qu'il est d'origine étrangère, ou même pire, parce qu'il est noir, tout simplement. Ça arrive dans la musique. Là, en ce moment, ma grande passion académique, c'est le rap. Je vois bien que les préférences du rap littéraire vont un peu systématiquement vers des rappeurs blancs. Je ne comprends pas. C'est un phénomène. Donc je pense qu'il y a aussi une forme institutionnelle, néocoloniale, de rapport à ce qui est l'autre dans la littérature, et notamment en France par rapport aux colonies. Vous avez fait un lapsus. Les colonies, les anciennes colonies, je pense que ce lapsus révèle aussi une certaine forme de hiérarchisation de la littérature par rapport aux formes d'expression françaises, francophones, qui sont minorées par ce système qui perpétue en fait aussi un canon, mais qui est vraiment un canon très problématique.
Donc, avant de revenir vers vous deux et sur ces questions d'appropriation populaire, Radio Brouhaha est une radio populaire et qui s'intéresse à la vie de tout le monde. Et donc, Nicolas Attal et Valérian Guillaume ont fait, comme nous le faisons généralement, un petit micro-trottoir pour s'interroger sur ces questions.
Literature evolves with people. So, if people is alive, then literature is a thing that is alive.
C'est vraiment quelque chose de très vivant, mais je dirais que la littérature...
Bon, bien sûr, vous avez compris, la question c'est est-ce que la littérature est vivante ou est-ce qu'elle est morte, hein ?
La littérature d'avant est aussi vivante à travers par le fait que, qu'elle est toujours, d'un point de vue psychologique, toujours très proche de la vie humaine.
Moi, je pense que elle est vivante... parce qu'il se change.
Enfin, moi, je ne suis pas écrivain, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui décident d'écrire, qui ont des idées, etc. Donc, même dans tous les milieux et à tous les âges. Donc, c'est vivant.
Oui, c'est oui. Toujours, toujours.
Moi, je lis pas énormément et je suis pas très littéraire, mais après, je suis pour.
Literature is still living, I think, because literature is not living only in a book, but also like when you read literature, it's still like in your head, and then you can transform by mouth to mouth, or by writing, but kind of writing letters, because the written words, it's not coming from only you, because it's coming from what you read, what you hear from literature. So in that sense, literature is still living.
Je vois pas trop.
Alors, on va arrêter là parce qu'on entend assez mal, hein, donc, mais on est heureux d'entendre que la littérature n'est pas seulement dans les livres, qu'elle peut se passer dans la tête, tout simplement. Hein. Alors, je voudrais tous les deux vous peut-être vous interroger sur aussi ce que disait Magali. Alain, je sais que tu as fait un déplacement dans ton travail historique, critique, sociologique, de la littérature vers le littéraire, parce que finalement, peut-être ce dont on parle, c'est la mort d'une idée. Et qu'est-ce que signifiait ce déplacement de la littérature vers le littéraire ? Est-ce que c'est pour prendre un plus grand tampon sur les pratiques ? Et l'autre déplacement que tu as fait il y a très longtemps, et on est beaucoup à le reprendre aujourd'hui, enfin il y a très longtemps, il y a eu une bonne quinzaine d'années, on est beaucoup à le reprendre, c'est sur la publication, en distinguant des expressions qui vont vers la publication et des expressions qui n'y vont pas. Donc ça, c'est un peu la question pour Alain. Si je puis me permettre, on peut lancer le dialogue comme ça. Johan, par rapport à ce que disait Magali, c'est vrai que toi, tu as voulu plutôt produire un contre-canon, il me semble, dans ton travail, et pas finalement, même si je sais que tu connais ces pratiques. Hein, ce soir, il y a Cécile Ménardi, dont tu parles par ailleurs dans tes articles, etc. Mais toutes ces littératures hors-livre, exposées, qui font le cœur du festival, que tu connais, elles sont hors de ton radar après la littérature. Donc voilà un petit peu les deux questions pour vous deux, messieurs.
Vaste question. Publication, c'est intéressant, publication. On est Radio Brouhaha. C'est le lieu ici où il est question de la parole. Donc sortons un peu de l'écrit imprimé et regardons. Publier, ça veut dire rendre public, quelle que soit la forme du média utilisé. Hein ? On est bien d'accord. C'est ce qu'on a essayé de faire dans une équipe de recherche qui marche très bien, merci, qui s'appelle le Centre de recherche sur l'histoire du littéraire, de s'intéresser à tout ce qui se fait sous forme de publication, sans faire de l'analyse de communication, en regardant ce que sont les phénomènes en question. Et ce que ça fait voir, c'est qu'il y a des choses qui présentent les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés formelles que ce que l'on appelle littérature dans des endroits qu'on n'appellerait pas du tout littérature. C'est par exemple, à une extrémité, je vous recommande ce livre, le livre sur les écrits ordinaires, le livre de Fabre sur l'écriture ordinaire, on peut voir partout. Alors après, on voit Mauvigné faire le travail qu'il fait. Mais historiquement, ça vient de loin, ces pratiques qui font qu'on a de la pratique du langage et de l'écriture qui peut devenir littéraire, le cas échéant, partout. Autre recommandation, et je vais être très bref, parce que je suis un passionné de théâtre, que la semaine prochaine, ce sont les journées du patrimoine, aller quelque part, n'importe où. Par exemple, à Soisy-sous-Montmorency, parce que là, je sais qu'il y a un exemple rigolo. C'est pas loin de Paris, en plus. Et aller voir les animations de ribambelles de lieux et de monuments à l'occasion des journées du patrimoine. Vous verrez des quantités de réalisations qui sont de l'écriture, de textes, de scènes, de pièces, mettant en jeu des lieux et des monuments. C'est du théâtre, c'est de l'écriture. Enfin, je ne vois pas où pourrait passer une frontière qui les séparerait de la littérature. Si je cite Soisy-sous-Montmorency, c'est parce qu'en plus, je sais que là, il y aura une pièce mettant en jeu le château qui a appartenu à la Maintenon puis à la Pompadour, avec l'histoire du bibliothécaire qui lui-même était un écrivain qui n'arrivait pas à écrire. Et c'était au XVIIIe siècle. Hein, donc on peut jouer à ces jeux-là. C'est de l'écriture sur la page déjà noire dans un truc qui est destiné à être parfaitement éphémère. Et ça, c'est un des problèmes auxquels on est confronté dans la recherche. C'est ce qui se passe dans l'éphémère, le livre, c'est commode, ça reste. Donc on peut travailler dessus, c'est un instantané.
C'est à, tu peux répéter
choisis
le.
Choisis sur Montmorency.
Choisis sur Montmorency.
Ma publicité est entièrement gratuite et anecdotique.
On précise juste que tu es le maire de cette commune.
Moi, je plaisante.
Non, mais en revanche, tu poses, et je m'adresse juste après ça, tu poses une excellente question. Vous savez qu'aujourd'hui, un des énormes problèmes de notre société, c'est dans l'organisation du loisir. Où sont les budgets ? Les maires, ce sont des gens qui décident de budget. Et il y a toute une série de pratiques qui, si petites soient-elles, ont besoin d'un minimum de moyens. Et il y a toute une pratique du littéraire sous toutes ses formes qui est tributaire de ces marchés-là. Le marché qui se développe à toute vitesse en ce moment, c'est le marché du tourisme culturel. Il y a des montagnes de textes qui sont écrits pour ça. Il y a des écrivains contemporains. Le Brouhaha, il est là. Il y a des écrivains contemporains qui ne pourraient pas se faire entendre s'ils n'avaient pas l'occasion d'aller dans des bibliothèques municipales, dans des soirées, dans des MJC, où on leur donne une occasion de prendre la parole et de transmettre leurs textes. C'est une vieille affaire. J'ai été du temps avec l'ami Chaillou où on fondait l'ADILC. L'ADILC, personne ne sait ce que c'est. On avait inventé une association pour le développement de la lecture contemporaine. On amenait des écrivains un peu partout lire leurs textes. Maintenant, c'est devenu banal et ça donne des performances remarquables. Mais il y a tout un travail de ce côté-là. Le Brouhaha, il est là. Et il y a toute une ignorance parce que on reste focalisé, les littéraires, pas forcément les sociologues. Tu fais venir Gisèle, elle en parlera autrement. Gisèle Sapiro, elle en parlera autrement dans deux jours. Mais on reste trop focalisé sur le côté canonique ou contre-canonique, alors qu'il y a un travail de terrain. Là, c'est le sociologue de la culture que je suis qui parle, passionné par le livre. Je ne vis qu'avec ça. Mais en même temps, il faut aller voir sur le terrain ce que sont les pratiques réelles des gens réels. Pas le 6e arrondissement et même pas le centre Pompidou, mais Choisy, par exemple, ou Pézenas. Alors, j'arrête
Dans l'Hérault.
Alors, Johan, alors du coup, c'est pas du tout ta perspective. Hein. Tu es dans une perspective où très clairement, dès le départ, tu dis il faut refaire un tri quand même. Il faut se situer dans le contemporain et il faut élaborer peut-être un contre-canon, alors qu'il est quand même un canon aussi reconnu. Donc, quelle est ta position par rapport à tout ça, à cette discussion qui va de Magali à Alain?
En fait, je te remercie de repréciser. Moi, je crois que, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. Après, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans le livre. Mais pour moi, parler du contemporain, c'est prendre une décision. Parce que quand je lis certains ouvrages sur le contemporain, pas ceux qui analysent la notion de contemporain, qui sont des ouvrages précieux et dont on a besoin, parce que c'est une notion qui demeure encore à problématiser, mais quand on lit des panoramas, je dis bien des panoramas ou des cartographies sur le roman contemporain ou sur la littérature contemporaine, pour moi c'est déjà un contresens. Parce qu'il faut, je pense, prendre une décision qui est celle de créer le contemporain, c'est-à-dire de trouver des lignes de force. On vit dans une époque qui vit dans une douleur, qui est celle de ne pas se reconnaître comme époque. C'est-à-dire qu'on dit à chaque fois oh, « l'époque n'est pas intéressante, il ne se passe rien », etc. Et en fait, il se passe énormément de choses. On le voit bien, nous, qui sommes au fait. Mais justement, il faut les porter, je dirais, à la lumière. Et pour ça, il faut créer les choses. Et pour créer les choses, en tout cas, moi, ça, c'est mon travail. Je ne sais pas ce que... En tout cas, moi, les outils que j'ai à ma disposition, c'est tracer des lignes poétiques et trouver des systèmes rhétoriques. Et à partir de là, c'est délimiter un certain nombre de textes. Dans mon corpus, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est vraiment l'Arche de Noé, version Titanic, où on aurait emporté finalement très très peu de gens à la fin de l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe dedans? Eh bien, si j'ai limité mon champ, c'est aussi pour aller un petit peu contre cette espèce d'écuménisme un peu mou qu'on retrouve soit à l'université, soit dans le journalisme, qui consiste à dire « Ah oui, il y a des gens qui écrivent, c'est des contemporains, etc. » Oui, bien sûr, mais il y a précisément des gestes à identifier qui peuvent peut-être fonder une identité dans l'époque, et cette identité, elle est obligatoirement dialectisée à ce qui vient d'être dit. C'est pour ça que je m'inscris un peu en faux avec ce que vous dites, parce que en fait, quand vous parlez d'histoire, que ça a déjà été fait, ben c'est vrai, vous avez parfaitement raison, mais je dirais que ça redouble la douleur de devoir physiquement le faire, parce que quand on se retrouve, quand on est écrivain, devant cette perspective de savoir que précisément, et là, vous avez effectivement parfaitement raison, il y a cette page noire qui a déjà effectivement pu exister, mais qui se retrouve à chaque fois problématisable de manière différente, on se retrouve en fait devant effectivement un canon face auquel en fait on doit proposer peut-être un contre-canon. Moi, j'y crois pas trop à cette histoire de contre-canon, parce que je pense par exemple que mon livre fait mourir les gens qui sont dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à identifier quelque chose, ça veut dire que l'objet est en train de mourir. Et c'est ça la douleur du contemporain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis quelque chose sous cloche, il n'y a plus d'air. Voilà. Et là, c'est un petit peu le problème de toute réflexion, de toute façon, c'est qu'il faut précisément le réalimenter. Donc l'histoire du canon, du contre-canon, elle oublie pour moi un élément central qui est celui de la cristallisation autour précisément d'une mort. Et un objet ne parvient, je dirais, à son degré scientifique qu'à partir du moment où précisément il est déjà un peu moins vivant.
Magali.
Oui, j'ai une question, Joanne, quand même. Le titre, c'est Après la littérature, donc ça a quand même une fonction générique. C'est la littérature au sens qui nous concernerait tous. Mais quand on parle du contemporain, on doit quand même situer son savoir au sens le situated knowledge, c'est un concept. C'est un concept qui est utilisé par les féministes dans les années 70, qui est utilisé aussi par les minorités, qui est utilisé par beaucoup de gens. Et ce contemporain-là, en quoi il est universel? C'est aussi une question. Est-ce qu'on peut dire que ce panorama de la littérature contemporaine, c'est un panorama universaliste? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on peut réduire la littérature au sens générique à, même si évidemment derrière, il y a une éthique, j'entends bien qu'il y a une volonté de valoriser une forme de position par rapport à la littérature contre une autre, mais c'est quand même une position dans un champ qui doit se déterminer, ben, qui doit savoir d'où il parle et avec qui. Alors, le champ littéraire, il a aussi ses limites, il n'est pas
universel. Je ne sais pas, s'il a des limites. En fait, J'ai l'impression, par exemple, on parlait tout à l'heure du livre, que effectivement, moi je parle de Cécile Ménardi, qu'on verra tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est problématisé très clairement dans les contemporains dont je parle, et qui est une question que tu poses, c'est la question dont on parlait tout à l'heure du livre. C'est-à-dire qu'eux passent tous par une publication papier, une publication physique, qui se retrouve après en livre numérique. On sait bien que le livre numérique est toujours, quoi qu'on dise, plus ou moins conçu chez les éditeurs comme le doublon. Il n'y a pas de vrai livre numérique, ou en tout cas, il y en a eu il y a quelques années, mais il n'y en a plus. Mais en fait, c'est qu'il y a une douleur, finalement, à vouloir être... il y a une volonté de sortir du livre. Il y a une volonté de ne plus écrire. C'est ça qui est au cœur de cette littérature. Et devoir en passer par le livre... propose finalement quelque chose finalement d'assez insurmontable. Le grand rêve, c'est de rejoindre le monde et finalement de se fondre dans la matière. C'est pour ça que, et je vais retomber sur l'universel, n'aie pas peur, et c'est pour ça qu'il y a, moi j'identifie deux choses. C'est tout d'abord une grande place assez nouvelle qui est laissée à une possible prosopopée, c'est-à-dire une parole qui serait donnée à la matière. Par exemple, chez Tanguy Viel, c'est toujours le cas. Le narrateur croise toujours une mouette, un rocher, qui pourrait mieux raconter son histoire que lui ne la raconte. Et il y a aussi ce qu'on appelle la dithologie, qui est la synonymisation, finalement, de tout. Et ça, c'est plutôt un roman comme Autour du monde de Laurent Mauvignier, qui propose, finalement, de trouver un point qui est peut-être nul, qui n'existe peut-être pas, mais qui se retrouve peut-être dans cette petite fille japonaise qui visite le Louvre et qui apprend au moment où elle visite le Louvre dans la dernière des 14 histoires qu'ils font autour du monde, qu'elle parle en français. Elle parle en français. Et mais elle pense et elle parle en français à propos de sa grand-mère qui vient de succomber dans le tsunami de 2011. Et là, en fait, finalement, cette question de l'universel, c'est une question qui dépasse même la littérature dont on parlait tout à l'heure. C'est une question, finalement, que du récit. Qu'est-ce que le récit aujourd'hui? Quelle forme prend-il? Est-ce que le récit n'a pas pris, finalement, la place de cet universel? Est-ce que le récit, c'est pas ce qui motive le théâtre, la poésie, ou même le roman? Enfin, le roman, par nature, peut-être, ou dénaturation, mais en tout cas, pour moi, ça passe par la question du récit.
J'aimerais, parce qu'on arrive près de la fin de ce premier plateau, et j'aimerais faire un grand retour en arrière, puis pour poser une dernière question à Magali, mais revenir vers toi, Alain. Finalement, on a très très peu parlé de ce qui se constitue au XVIIe siècle, et que tu as parfaitement analysé dans La naissance de l'écrivain. Est-ce que tu pourrais parler de cette constitution de tout un champ, et comment se construit un monde littéraire, qui est peut-être ce monde-là qui, aujourd'hui, prend l'eau à certains endroits, ou en tout cas, ou peut-être pas, hein, en fonction de ce que tu nous diras, mais en fonction de ce que nous disait Magali tout à l'heure sur le Tumblr, sur l'inscription de la littérature plutôt dans l'art contemporain ou les pratiques du web, qui est en train tout d'un coup de bouger. Donc peut-être, pour revenir, c'est quoi cette naissance de l'écrivain, dans quel cadre et comment se fait-elle structurellement ?
La naissance de l'écrivain, elle s'est opérée à un moment où l'essor de l'édition imprimée et l'essor du théâtre, les structures de communication que sont le livre et le théâtre, puis l'apparition des premiers journaux, des premières revues, ont permis qu'il y ait un espace social où se fassent entendre des voix ou des écritures.
C'est une révolution presque technologique au départ.
C'est la technogénèse,
oui. Oui, parce que les idées, là je reviens à l'histoire dont on parlait tout à l'heure de la page noire, les idées, elles étaient là. Il y a de magnifiques choses au XVIe siècle sur ce que peut être le mérite de l'écrivain, mais ça ne passe pas. Il y a un phénomène historique un peu plus tard quand il y a des supports qui le permettent. Ça bouge aujourd'hui avec l'apparition de supports nouveaux, de réseaux un peu plus diffus, autrement répartis. Mais moi, je ne pense pas du tout que le marché du livre est en train de disparaître. Il se porte très convenablement avec ses variations habituelles. Je ne pense pas du tout que l'apparition de réseaux nouveaux tue ce qui existait. Ça redistribue les enjeux. Je ne prends pas position, depuis tout à l'heure, je fais très attention. Je ne prends pas position parce que je me comporte en chercheur. Donc j'ai des préférences et des envies, il y a des choses que j'ai envie de soutenir. Mais je me comporte en chercheur, ça veut dire que j'observe qu'on passe notre temps, y compris dans cette discussion, à balancer des qualificatifs ou à balancer des substantifs qualifiants. On se sent obligé de faire appel à l'universel, de faire appel à... Tu l'as très bien dit tout à l'heure. en jouant avec néo-littéraire et néo-littérature. C'était très très beau la façon dont tu le défendais tout en le relativisant. Hein. Mais on passe son temps, c'était exemplaire pour moi comme cette situation où dans le monde culturel et nécessairement dans le monde social, on passe son temps à balancer des qualificatifs qui sont des jugements, des prises de position, des prises de pouvoir ou des acceptations de domination. Et la littérature, c'est une bagarre, le littéraire, l'écriture, la parole, c'est une bagarre avec ça. C'est avec ça que ça se bat. Ça se bat de 36 000 façons. Après, on peut entrer dans les boîtes à outils et se demander s'il vaut mieux la clé de 12 ou le banc électronique pour refaire son carburateur. C'est une autre affaire. Mais c'est avec ça qu'on se bat. Et c'est là que se joue l'importance des croyances, des mythes, des choses auxquelles on se donne. Or, aujourd'hui, il est certain qu'il y a des espaces plus ouverts. Et il faut que ces espaces, de toute façon, nous qui sommes chercheurs, nous essayons de les prendre en compte. Parce qu'ils existent, qu'on le veuille ou non, ils sont là et ils produisent des quantités de choses avec des quantités de gens qui ont des quantités d'intérêt à ce que ces pratiques aient lieu. Je me tais sur cette quantité de quantités.
Ouais, et peut-être juste pour revenir avec toi, Magali, sur ces autres espaces, toi, un des espaces que tu as vraiment privilégié, c'est l'espace de l'art contemporain. Et tu as vu une sorte de raccrochage de la littérature à l'art contemporain. De quel enjeu cela relève ?
Ben justement, il y a des formes de narrativisation dans l'art contemporain. Il y a aussi une place du livre, le livre qui apparaît parfois concrètement, qui est malmené, qui est adapté, qui est parfois détruit. Il y a des biblioclasties dans l'art contemporain aussi, un rapport contrarié au livre et au récit. Il y a aussi des objets qui parlent. Dans l'art contemporain, il y en a même beaucoup. Il y a beaucoup d'objets qui racontent des histoires, des contre-récits aussi. Les installations de Tuvan Tran, par exemple, font le récit des colonies à travers les moulages des EVA, ces arbres qui ont fourni le caoutchouc à Michelin au Vietnam, qui ont créé des... Et donc, ces objets qui ressurgissent reviennent aussi avec des histoires, sont racontés d'autres manières, à travers des objets. Alors effectivement, ça ne procède pas d'un texte d'abord, ça procède premièrement d'une matière qui est renarrativisée. Je voulais aussi rebondir sur cette idée de la technogénèse et de l'influence des supports techniques. Dans l'histoire de l'art, on connaît tous le travail de Pierre-Franc Castel, Art et Société, et la façon dont il a montré que les inventions techniques avaient modifié l'art. Les inventions techniques ont aussi modifié notre perception de la littérature. Friedrich Kittler, dans Gramophone Typewriter Film, explique que Nietzsche, avait, à partir du moment où il avait commencé à écrire avec le premier prototype de machine à écrire, avait écrit plus vite des aphorismes plus courts et que surtout il ne voyait pas ce qu'il écrivait, donc il écrivait à l'aveugle. Et ça avait aussi généré des interrogations. Et c'est ce rapport entre l'homme, son médium, la machine et le fait littéraire génère en permanence des évolutions. Le numérique en fait partie. On nomme à un moment donné, mais il faut juste avoir conscience de la caducité des noms qu'on donne, que c'est transitoire, ça nous aide, on s'appuie dessus comme un bâton de pèlerin et puis après on avance et puis on espère d'ailleurs tous que les artistes, les écrivains vont nous proposer des choses encore plus aporétiques sur lesquelles on va pouvoir réfléchir et qui vont nous donner encore du grain à moudre.
Donc on serait, on est post-littéraire alors.
On est toujours dedans, mais dedans dehors.
Ok, merci à vous trois. On va passer au deuxième plateau.
Merci.
You better hope Jesus save you. 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 Save you, save you, save you, Jesus. You better hope Jesus save you, save you, save you, save you, save you. You better hope Jesus save you, save you, save you, save you, Jesus. You better hope Jesus saint you, saint you, saint you, saint you, saint you, saint. You better hope Jesus ain't you, ain't you, ain't you, ain't you, Jesus. You better hope Jesus saint you, saint you, saint you, saint you, Jesus. You better hope Jesus ain't you, ain't you, saint you, ain't you, ain't you, ain't you. You better hope Jesus say so. Say your soul, say your soul, say your soul, say your soul, say your soul. You better hope Jesus ain't soul, say soul, say soul, say soul, Jesus. You better hope Jesus save your soul, say soul, say soul, say soul, say soul, say. You better hope Jesus say so, say so, say so, say so, Jesus. You better hope Jesus say so, say so, say so, say it so, say it so, say it so. You better hope Jesus save you, save you, save you, save you, say so, say so, Jesus. Hope Jesus saint you, saint you, saint you, saint you, saint you, saint you. You better.
On est chanceux, on vient d'écouter une performance enregistrée de Tracy Morris et vous aurez la chance de l'écouter ce soir avec ces deux traducteurs, Vincent Broca et Abigail Lang. On remercie vraiment Tracy parce qu'elle est arrivée ce matin des États-Unis. So you must be jet lagged.
Tomorrow.
So that's okay for today. Donc on est très heureux d'accueillir Tracy Morris qui est une des représentantes de ces littératures en livre dont on parle durant ce festival. Hein. C'est une performeuse. Elle a été reconnue dans le premier temps plutôt sur la scène slam new-yorkaise et elle fait partie des rares poètes et poétesses qui sont à la fois reconnues dans le milieu disons plutôt des cultures populaires du slam, de la poésie orale, mais aussi des cultures plus savantes, art and language. Elle a travaillé avec Charles Bernstein par exemple, donc elle bénéficie de ce double apport. Elle est vraiment une représentante idéale de ceux qu'on essaie de travailler durant ce festival. Alors peut-être je vais laisser Vincent et Abigail faire une petite présentation de Tracy et après on passera à une question.
Oui, donc ce sera une présentation assez courte puisqu'on va en refaire une tout à l'heure en début de lecture et de performance. Mais effectivement, comme tu le disais, Lionel, Tracy est une poète avec une forte personnalité parce que, d'une part, elle vient effectivement d'une poétique slam. Elle a gagné un très important prix de slam en 93. Et puis, petit à petit, elle a renoncé à cette poétique-là pour aller vers des textures et des textualités, des modes de performance beaucoup plus expérimentaux qui reprennent en particulier tout l'héritage de la poésie sonore depuis Dada, tout en les critiquant depuis l'intérieur. Et c'est vrai qu'elle insiste beaucoup sur le fait, puisqu'on la connaît en particulier pour ses talents performeuses, et puis vous allez voir ça tout à l'heure, ça va être à mon avis assez extraordinaire ce qu'elle va faire, mais on la connaît comme performeuse, mais en fait elle se définit elle-même comme poète de la page. Donc c'est très intéressant par rapport à la table ronde qui avait lieu là.
J'aimerais bien qu'on lui pose cette question. C'est vrai que j'ai été frappé en lisant, donc on a une collection, on a un livre qui vient de paraître.
Oui, il y a un an. C'est-à-dire qu'elle a été invitée au festival Midi Minuit la Poésie, je crois que c'est ça, à Nantes. Mmh. Et pour cette occasion, nous avons publié ce livre que donc Abigail et moi avons traduit dans la collection d'Olivier Brossard aux éditions Jocasseria.
Et donc, on a une introduction de Tracy Morris et une postface de Marjorie Perloff, ce qui montre justement aussi ces deux de Marjorie Perloff. C'est vraiment la grande théoricienne de la poésie conceptuelle moderniste et postmoderne contemporaine américaine. Et j'ai été frappé, alors peut-être c'est la question qu'on peut poser, alors je la pose en français pour que tout le monde, tu traduis très rapidement ou Abigail très rapidement. J'ai été frappé par le fait que Tracy se présente vraiment, elle se voit comme une écrivaine de la page. Alors c'est vraiment ce qu'on n'attendait pas d'elle au fond quand on connaît un peu son travail.
So Lionel was struck by the fact that you introduce yourself and you see yourself as a poet working on the page, and that's not exactly what one expects first.
Yep. So. This is true. People don't expect it, and that is what I am. I start with a page. Everything illuminates or jumps off from the page. But I don't believe in the hierarchy of the page versus the stage or vice versa. Am I going to translate? Is this going to be...
No, juste pour dire que donc Tracy disait que pour elle, tout commence sur la page, mais elle ne croit pas à cette hiérarchie entre la page et la scène.
So they do different, they operate systematically in different ways. And so depending on the poem, I will focus on one arena or one context more than the other. But my roots are page-based.
Donc chaque, la scène comme la page, c'est un système à part entière. Et selon les sujets qu'elle aborde, elle en choisit un ou l'autre. Mais au départ, elle vient de la page.
So the work on the page allows one certain opportunities that are not presented in live performance.
La page permet de faire certaines choses qu'on peut pas faire sur scène.
Rereading it is one. One is able to reread it.
Avec la page, on peut la relire, ce qu'on peut pas.
And the other is a very powerful one also, is that one hears the poem in one's own voice.
Et la page, on entend le poème mais on l'entend en soi, enfin dans de,
when one reads to oneself.
Quand on le lit pour soi.
Whereas the stage has other, live performance has other advantages also, the fact that you feel the intention of my physical body into the poem.
L'avantage de la scène, c'est que l'auditoire ressent l'énergie du corps du performeur, enfin l'intensité, l'énergie qu'elle met dans le poème.
And that includes textures and qualities of the voice.
Qualities of?
The voice.
Et notamment les qualités, les textures de la voix.
So they both do different things, but my origins were with the page way before I was performing publicly.
Oui, elle a commencé bien avant sur la page.
Et peut-être pour prolonger cette question, moi je connaissais les performances. On peut vraiment découvrir le travail de Tracy Morris sur Internet assez facilement, sur Pensound par exemple. Vous pouvez trouver des vidéos, vous pouvez trouver des sons. Donc moi je connaissais ce travail de cette manière-là. Et ce qui quand même caractérise le travail de Tracy Morris, c'est l'improvisation et c'est le fait que c'est vraiment un travail performatif. C'est-à-dire, c'est pas une lectrice de ses textes véritablement. Elle lit ses textes, mais aussi elle les performe, en ce sens que le corps est là, qu'il donne lieu, oui, à des répétitions. Alors que j'étais frappé de voir que les textes sont prosodiquement très 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 construits. Hein. Vous parlez dans l'introduction de tercets, vous parlez de cette construction extrêmement précise. Comme une poésie formellement excessivement élaborée pour la page, quoi.
Yes, Lionel was saying that he was struck how prosodically precise your foreword to the poems were. The fact that you spoke about couplets and tercets and different formal features.
Whereas first he knew your work as a performative like work, and so when he saw your work on Pensound or you know your readings and listened to them, he could see that you were not actually reading the poems, but you were performing them
and
improvising them.
Yeah,
that's true. Thanks. Thanks a lot. comment vous avez composer ce livre parce que je sais qu'il vient de plusieurs origines et de plusieurs origines textuelles et de plusieurs autres ouvrages. Qu'est-ce qui a présidé vous parlez dans l'introduction de chercher votre voix, hein. Donc qu'est-ce qui a fait cette voix-là?
So how did you compose this specific book, and can you say more about in the introduction you speak about finding your voice, say more about that?
And also, he sort of saw that some of the texts came from, you know, different horizons or pre-publications or prior publications. So could you talk more about the construction of the book?
I felt that the opportunity to have a book in another language and to compare them I was very grateful for that chance.
Why?
Because it's the first time. This is my first book in another language that is collaborating with another language.
C'est son premier livre qui n'est pas publié aux États-Unis, donc, et elle était très contente d'avoir cette opportunité de collaborer avec une autre langue.
And it's not a language that I speak. I speak Spanish. I don't speak French. So to put together a book in a language that I don't am not as familiar with was great. And also I thought, how can we connect almost on a subatomic level? And for me, that was thinking about poems in strict meter as a form that people could understand the energy behind it.
Donc, elle a cherché à composer le livre pour entrer en lien avec cette autre langue. Et elle a travaillé notamment, elle dit, au niveau subatomique. Donc, c'est en dessous de. It's at a level beneath the poem, right? You mean lines or even
lines,
words?
Accentuation of verse.
Donc, elle a pensé beaucoup. Elle a composé aussi en fonction des vers et des accentuations.
Right. And so I've written in form for almost my entire poetic career, even though that's not what I'm most known for. To the extent that I am known for anything, it's probably not that.
Donc en général, on la connaît pas pour ça, mais depuis qu'elle écrit, elle a toujours utilisé des formes fixes, héritées ou retravaillées, enfin qu'elle revisite des éléments de formes traditionnelles qu'elle revisite.
Et vous préféreriez être connu pour ça? Est-ce que c'est une souffrance quand vous dites « je ne suis pas connu pour ça » et j'ai été, disons, ma question, ce serait est-ce que vous vous êtes senti embarqué dans un autre monde et vous êtes heureuse de le retrouver avec ce livre?
Would you rather be known as a formal poet, or is?
Do you have a sense that you were somehow dragged into this particular world and you wanted to be in another world, or?
No, I don't. I my ego is not the determining factor. The poem that wants to come through is the decider. The muse is the decides.
Ce qui importe, c'est la muse. C'est la muse qui décide. C'est-à-dire, c'est le poème qui vient, qui décide de sa forme. C'est parce que elle choisit qui est important.
But again, you know, the opportunity to present a work in another language, so that people, even if they don't read English, can feel the force behind the poem. It's a different kind of opportunity when one thinks about translation. How does this feel to the poet, and then how is that translated?
Donc Tracy Morris ne parle pas français, mais elle était intéressée de voir dans la traduction comment il y a une énergie qui passe dans une autre langue, même si elle comprend pas les mots, donc à la fois dans l'apparence sur la page, mais même une énergie qui passe par une autre langue.
Et y compris pour elle-même, c'est-à-dire pour elle-même en tant que poète.
Right, so the strict form has this kind of force, even if it's a form I made up, which some of them are, it has that drive that people understand irrespective of the language.
Ouais. Et notamment les poèmes formels, enfin qui ont une forme particulière, ils ont une espèce de puissance,
une force
qui pousse et qui est perceptible même si on n'arrive pas forcément à lire le poème sur la page, on le sent dans l'impression, dans la forme imprimée.
It's also fun.
Vous le verrez ce soir, je pense que ça sera fun. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Vous l'avez déjà fait deux ou trois fois, c'est ça?
Deux fois.
Et là, peut-être. I have a question from the translator, so I do it in French. C'est peut-être aussi une question que je veux vous poser à tous les deux. Vous n'êtes pas uniquement traducteur, disons, ce soir, puisque il y a une partie d'improvisation. Comment vous travaillez? C'est quoi? C'est une traduction performative? C'est une performance traductive? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu chaque fois très différent. Les premières fois où on a performé, en gros, on savait pas ce qu'on allait faire, on savait pas comment on allait le faire. Donc on a effectivement.
Vous aviez un texte ou pas?
Oui, bien sûr, on a ce texte. C'est-à-dire qu'on travaille à partir de ce livre, on travaille à partir du livre qui est publié. Les traductions donc existent. Il ne s'agit pas de faire ce que Abigail fait parfaitement ici, à savoir d'interpréter des textes que Tracy sera en train de composer sur le moment. Non, pas du tout. Donc à partir de ces textes-là, quand même, il y a ce canevas, mais
C'est vrai que les précédentes fois, on ne savait pas quel texte on allait lire, on ne savait pas comment on allait les lire, on ne savait pas si nos voix allaient être mêlées, si on allait lire deux quatrains et puis Tracy lisait deux quatrains, etc., etc. On ne savait même pas, en fait, puisqu'elle nous avait tellement dit que c'était des poèmes pour la page, on ne savait pas que certains étaient des chansons, tout simplement, ou qu'elle allait crier au milieu de certains. Donc, effectivement, il a fallu l'écouter, adapter en quelque sorte ce qu'on avait construit comme illusion du poème dans notre traduction. Et même si, d'accord, elle nous a répété pendant la traduction qu'elle était une artiste de la page, mais Abigail et moi, nous correspondions et nous nous disions enfin, quand même, ces poèmes sont tellement sonores sur la page qu'il faut faire bien autre chose que de traduire simplement pour la page. Et donc, on a en quelque sorte anticipé des rythmes, anticipé des possibles improvisations et créé un idiome, en quelque sorte, en traduisant ces textes. Et pour ce soir, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus préparé.
Abigail, peut-être...
Alors, moi, je vais moins répondre sur l'improvisation en public, qui est une chose pour laquelle je ne suis pas très à l'aise, mais j'ai senti une improvisation pendant la traduction. Alors, ce n'est pas une improvisation, mais on peut dire qu'il y a peut-être ça toujours dans la traduction. C'est-à-dire que plus on devient familier avec l'œuvre d'un poète, on a aussi beaucoup correspondu. Tracy a répondu à beaucoup de questions, de façon très généreuse. Au bout d'un moment, on se sent autorisé, enfin, on anticipe un peu les réponses ou les types de réponses, et donc on sait vers où on peut aller, et donc voilà, si on trouve des choses qui sonnent bien, qui sont justes et qui correspondent à sa poétique, on se sent autorisé à y aller, même si ce n'est pas exactement au mot près, enfin littéralement la traduction. Donc l'improvisation, pour moi, elle est particulièrement là, dans le moment de traduction écrite. Enfin.
Et c'est vrai aussi que, bon, on connaît le travail de Tracy depuis des années et des années. Elle a déjà lu dans la série de lectures qu'on anime. Donc on savait déjà un peu des choses qui allaient être sur la scène ensuite à partir de ces textes-là. Donc effectivement, il s'agit c'est pour nous de construire des textes qui avaient des potentialités différentes, à la fois importantes sur la page, respecter des choses de vers, enfin jouer avec le vers, etc., etc., mais aussi des textes qui allaient être complètement métamorphosés, dont on savait qu'ils allaient être complètement métamorphosés à l'écrit et puis à l'oral. Et une dernière chose, c'est qu'effectivement, l'une des difficultés chez Tracy, c'est qu'elle mélange énormément de styles, de langues, depuis des langues afro-américaines, depuis du hip-hop, du jazz, mais aussi des langues inventées peut-être même. Et donc il fallait que nous aussi on réponde à ça en créant un idiome qui n'était pas assignable.
Merci. Alors peut-être une question aussi pour faire le lien avec la première partie de l'émission. Hein, on avait alors, je vais essayer d'être synthétique. On avait une émission sur la représentation de la littérature en France, disons. Hein, et on essayait de réfléchir avec ces propositions. Est-on après la littérature? Ou est-ce qu'il y a de nouvelles formes de littérature? J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de la scène littéraire où vous vous situez. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a des... plus grandes relations, par exemple, aux États-Unis, alors vous ne connaissez peut-être pas la France, mais des plus grandes relations aux États-Unis entre la scène slam, hip-hop, la scène poétique plus conceptuelle et plus blanche aussi, il faut bien le dire, et aussi la littérature mainstream, disons-le. Ou au contraire, est-ce que c'est très cloisonné
Ok, so this is a question for you, Tracy. In the radio show... Before us, at the beginning of the radio show, there was a discussion about the future of literature or the representations of literature, new forms of literature, and also different literary scenes. And so the question is, what is your sense of the different literary scenes in the U.S.? Are they very separated, or are they... are there exchanges? I mean, you would be maybe a living example of exchanges, but what is your sense of the exchanges between the slam hip-hop scene, the poetry scene, or the mainstream poetry scene, experimental scene? How do they work together or not?
Wow, that's a big question. I can tell you what I'm sensing from my students. This is a selected sample, but I think there's a maturity that is happening with hip-hop and hip-hop aesthetics and how it's in conversation with academic poetry, which makes me optimistic. Yeah.
Alors, elle répond surtout à partir de ses entretiens avec ses, Tracy Morris est enseignante, et donc ce qu'elle voit chez ses étudiants, c'est qu'il y a le hip-hop qui arrive à une réelle maturité et qu'il y a maintenant beaucoup de conversations entre la scène hip-hop et la poésie plus traditionnelle, les cercles de poésie.
Mais est-ce qu'elle ne voulait pas plutôt dire la poésie à l'intérieur de l'université aussi, c'est aussi ça que je comprenais dans Academic Poetry, do you mean poetry in the academy or academic poetry?
Both.
Mais
both.
Aux États-Unis, c'est un peu...
Oui, mais c'est peut-être sur quoi je voulais...
C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, il y a cette poésie beaucoup plus qu'en France. La poésie a une place très importante dans les universités, puisqu'il y a des programmes d'écriture, et donc les poètes, énormément de poètes, il y a 400 et quelques programmes d'écriture, donc énormément de poètes, travaillent dans l'université. C'est d'ailleurs le cas de Tracy, puisqu'elle travaille dans un institut d'art. Mais donc, il y a le lien qui est fait souvent entre le fait que les poètes soient dans l'académie et la création de poésie peut-être parfois très académique aussi. Ce qui n'est pas vrai de la totalité de la poésie américaine, bien évidemment.
So I could say a little bit more about this. Hip-hop aesthetics, as it's grown over the last 40 or so years, right, has engaged with a lot of conventional and innovative poetic techniques. So the way that they were separate before, sort of street culture in quote, and like legitimate poetry on the other hand, once people who grew up with that sort of, these aesthetics as a natural course of the way that they hear language, once they go into academia, right, they interpret some of those rules in ways that they already know. And they also take what they already know and they apply these rules, more academic poetry rules, to them. So both of those things are happening. And I feel like there are some very entrenched still, like, I'm a street hip-hop poet, or I'm a legitimate academic poet, which for academics means it's an excuse not to read well in public. Another story. But many people, it's becoming much more conversational. It has to. I think people in academia, this is the last thing, because I know I have to translate, they also realize if they don't connect to it, they will be left behind. Because these students are moving forward. They're going to grad school, they're developing their own presses, they're putting their stuff online. So in order for academia not to be completely irrelevant, there has to be this exchange, and I think the students are encouraging it. And also faculty members who grew up with this are also encouraging it. So I'm feeling hopeful.
Oui, donc Tracy réitérait son espérance que les choses changent effectivement. Alors elle disait que parce que le hip-hop, la tradition du hip-hop existe depuis 40 ou 50 ans, à la fois les chanteurs de hip-hop on se sont appropriés des techniques de la poésie traditionnelle ou aussi des conventions de la poésie expérimentale. Et des jeunes gens qui, en tant qu'ados, aimaient le hip-hop, ont grandi et sont devenus des étudiants, ont fait des thèses, et ont ce double bagage. Et l'université n'a pas le choix, doit s'adapter. Enfin, de toute façon, ces étudiants qui deviennent des enseignants, qui ont ce double bagage, enfin, cette double tradition, mêlent les deux traditions, créent des maisons d'édition qui publient des choses qui naviguent ou qui hybrident les deux traditions.
Et est-ce que vos étudiants rêvent à la page, eux aussi, et au livre?
Do your students dream of the page? Do they dream of the page, or do they see the page as the dream, or as the you know, the horizon?
Interesting. I think by the time they finish with my classes, they do. Because I push it very intensely. Like, I confront the aversion and dismissal of Shakespeare a lot. And I argue that they should see it as theirs, as something that they should possess as part of their library, their vocabulary. And by the time we're finished, they don't feel aversive, or they don't feel that it's only elite. They feel like it's for them too. And the way that he connects things is so intricate that they embrace that because hip-hop language and hip-hop poetics right now is so intricate that they're accustomed to intricacies in language. They just have to feel welcome that all language is part of their world and that nobody can tell them that something doesn't belong to them. And that includes the page, of course.
Donc elle dit qu'à la fin de son séminaire de master, ses étudiants n'ont plus peur de la page et elle les pousse à s'approprier la page comme un espace légitime auquel ils peuvent aspirer. Elle ajoute aussi que la sophistication des formes de hip-hop est telle que finalement c'est pas plus compliqué. Enfin, elle leur montre que c'est pas plus compliqué qu'un sonnet de Shakespeare et qu'ils ont tout à fait les moyens de comprendre et de s'approprier de comprendre un poème de Shakespeare et qu'ils se révèlent aussi à l'aise en fait dans les deux traditions.
Mais ça, c'est aussi peut-être ce que vous apportez parce que vous, votre œuvre, pour reprendre le concept de la partie précédente de l'émission, c'est une œuvre de la page noire, c'est-à-dire elle est nourrie de culture littéraire, de culture même antique, de poésie antique, de toute l'histoire de la poésie. J'ai l'impression, comme enseignant, comme Vincent aussi, dans un master de création littéraire, que la page noire, c'est-à-dire cette culture littéraire, a quand même profondément changé aussi et qu'elle est aujourd'hui... Bien diversifiée, que elle est moins noire en termes de culture littéraire, si j'ose la métaphore. Je suis sûr que tu arriveras à traduire, Vincent.
So Lionel was raising the issue of what they have been calling the black page. The black page being the culture ridden page. So
you have in front of you before writing, you know, and you need to erase all the literary references.
Because there is so much. So much tradition before, and you need a process of empowerment in order to be able and to dare write. Et la question, c'était...
And now the sense is, and Lionel has the sense that teaching in a creative writing MA that Lionel created, that the black so-called black page is less black, that that it has changed a lot in terms of what culture or what prior texts people come with.
So when you say black, do you mean like black people, or do you mean black as in like...
The white page you have in front of you before writing. It's not black in the sense of colored people.
Oh, okay.
No ambiguity on that.
Oh, okay. I mean, because I think they're in conversation, actually. So you're asking, I want to make sure I understand what your intention was, not the different layers I'm adding to it.
I said that your work is inspired by all the literary history. You write after Ovid and after you say that, and we can see that in your poems. I have the feeling, dealing with young students today, that the black page, the literary culture, is maybe different than the literary culture we used to deal with.
Well, I think that's true, but I just want to adjust the comment a little bit. It's not literary history, it's poetic history. Poetic history is millennia before page-based history. The origins of poetry are not page-based. They come from performative utterance, right? That is the location where I start with the engagement between poetics and formalism or innovation. It's with how the people feeling the need to utter and why. And some people feel that is because, and it's an exclamation of the extraordinary. Why does someone say something? At the beginning of humankind, why did someone speak? Because, you know, we see the stereotype of the caveman hitting the woman over the head and going to take her, pull her by the hair, right? And animals don't do poetics in the same way, as far as we know. So you can communicate essential things without poetics. What makes people need to utter? The poetics. So what is that? It's the O at the beginning of all of those biblical and spiritual phrases, right? O, Om, all of these things. That's the beginning of poetics. Everybody is part of that origin. And that's where we start. The page is a technological development that came later as a mnemonic device, as an incantatory device, as code to keep certain people out. But the origins of poetry start with the origins of humankind, as far as I'm concerned. And that's where the students have permission as human beings to be part of the discussion. The other stuff came later.
Ce sera la parfaite conclusion à notre conversation sur avant, après la littérature. Après la littérature, il y aura quand même la poésie. Je vous laisse traduire.
Alors, je résumais. Donc, Tracy Morris précisait qu'elle se place moins dans la tradition littéraire que poétique. Et pour elle, la poésie, c'est immémorial. C'est aussi ancien que l'humanité. Et que ça ne commence pas du tout avec la page. Ça commence avec l'exclamation, l'étonnement, hein, le haut de l'émerveillement et de ce besoin de dire cette l'émerveillement. Et elle utilise cette origine-là aussi pour autoriser ses étudiants pour les convaincre qu'ils sont légitimes à s'aventurer dans la poésie, puisque ce n'est pas seulement une question de page. Et elle rappelle que la page, c'est une technologie mnémotechnique qui a une histoire, qu'elle a aussi été utilisée comme un code pour exclure certaines populations. Mais que ce n'est en aucun cas, que c'est un moment dans l'histoire de la poésie, mais c'est pas du tout l'entièreté. Que c'est beaucoup plus ancien.
So one more thing I need to say. In the conflation of blackness that we described, when we say that humankind originated in Africa, the loadedness of that comment implies things like this, that the performative utterance begins there also, right? Every civilization has had poetry, right, and language. But when we, the reconfiguring of Africa, not as a primordial stew from which humans emerged before they, and then they really evolved somewhere else. No, but this is a serious, I'm saying that we have to reconfigure what all the implications of that, right? So the first human beings uttering that O or whatever the sound was, we interpret that as part of the fundamental humanness being located in Africa also. And that doesn't mean that anybody is excluded. All human groups have had poetry. But it means that it's a profound way in which we have to rethink the African presence in the world, right? This is critical for us to understand who we are as human beings fundamentally. Not that they are over there somewhere, but that we are part of this ancient tradition, and that we don't have to be afraid to say that this is also an African origin, you see. So it's political, but it shouldn't be political. This should be understood.
Donc, et pour finir, Tracy Morris rappelait que, bon, on dit souvent sans y penser que l'origine de l'humanité est en Afrique, mais elle nous demande d'y penser, c'est-à-dire que les premiers humains qui sont aussi les premiers à lancer cette exclamation d'émerveillement, le haut de l'émerveillement. Voilà, il faut partir. C'est une seule humanité qui se trouve à avoir émergé en Afrique. Pour résumer.
She said it faster than I did.
Merci à tous les trois. Merci. Radio Brouhaha, c'est fini pour ce soir. Alors, on se retrouve demain pour une émission consacrée au terrain. Et pour finir, on va écouter un autre poème de Tracy Morris qu'elle m'a gentiment envoyé. Et surtout, soyez là ce soir pour la performance. Merci à vous deux, Vincent et Abigail.
Thank you very much.
Thank you. Merci. Thank you.